Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Quand on fait de l'infrastructure à Scott, on se demande toujours quoi faire des données sensibles. Comment est-ce qu'on va gérer ces secrets? Est-ce qu'on les met dans Git? Est-ce qu'on les met ailleurs? Est-ce qu'on utilise une base de données dédiée ou d'autres solutions, etc.? Quel outil on peut utiliser?
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans ce nouvel épisode de Radio DevOps, ton podcast préféré et animé par les membres de la communauté des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous débattons sur un sujet de fond et aujourd'hui, comme tu l'auras compris, on va parler de la gestion des secrets dans un contexte d'infrastructure as code. Excusez-moi. Évidemment, si l'épisode te plaît, tu peux venir en discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps. Il suffit de t'inscrire et c'est le premier lien en description. Et pour parler secret avec moi, et il n'y a pas de secret entre nous, n'est-ce pas Damir ? J'ai Damir.
Ah, de belles références. Bah, bonjour ou bonsoir à tous.
J'ai aussi Nicolas.
Bonjour.
Et enfin, René.
Eh ben, bonjour ou bonsoir à tous.
Et on va parler secrètement, alors je vous propose qu'on chuchote un petit peu, qu'on fasse un podcast ASMR pour parler de ces petits secrets. Alors justement, parler de ces petits secrets, pourquoi est-ce qu'on va parler de secrets dans l'infra as code? De quoi est-ce qu'on parle? Et je crois que Nicolas voulait nous faire une petite introduction là-dessus.
Oui, parce que c'est un sujet qui me préoccupe depuis pas mal de temps et j'essaye de trouver des solutions et j'ai pas encore des solutions magiques à tout. Mais déjà, de manière générale en sécurité, on réfléchit d'abord à quoi, de quelle menace on veut se protéger. Donc là, on va plutôt parler de quelle partie on va vouloir protéger. Donc, il y a une première partie qu'on va vouloir protéger, c'est le code source, parce que il y a des petits malins qui trouvent que Git c'est super pratique pour sauvegarder des trucs. Et comme on a un repository GitHub public, et ben on pousse les secrets en même temps. C'est facile, on fait git add, git commit, git push et pouf. Et comme Linus Torvald l'a dit, si vous n'avez pas de solution de sauvegarde à un coût raisonnable, publiez-le sur Internet, il y a des gens qui vont tout sauvegarder à votre place. C'est un des risques qui est quand même les plus critiques, c'est que votre code source inclut des secrets. Donc c'est un truc à proscrire totalement. Donc on parlera tout à l'heure de différentes solutions pour s'en protéger et comment on peut avoir du code source qui utilise des secrets. On a l'infra as code qui doit pouvoir utiliser des secrets et comment est-ce qu'on peut lui fournir ces secrets tout en protégeant l'infrastructure parce que il faut que le secret soit utilisé au bon moment et que l'on puisse le stocker de manière sécurisée. Et ensuite, le dernier risque, c'est la machine en elle-même, puisque de plus en plus avec le cloud, on utilise l'ordinateur d'un autre, et mon ordinateur d'aujourd'hui, ça sera peut-être l'ordinateur de quelqu'un d'autre, mais d'un autre utilisateur demain. Et il est mal intentionné, il va essayer de récupérer les secrets. Ou alors on va se faire piquer une machine d'une manière ou d'une autre et si le secret est en clair sur la machine, bah c'est un problème, donc il faut pouvoir se protéger de ça aussi. Et je pense que René, tu veux nous parler d'un autre risque aussi.
Pardon. Oui, c'était une petite aparté parce que pour rien cacher aux auditeurs, j'ai un peu embêté les gens avec ça. C'est que quelque chose qu'il faut prendre aussi en considération, c'est les outils qu'on m'a présentés peuvent aussi servir beaucoup à partager des secrets de manière sûre. Et, Et voilà, souvent c'est aussi, enfin, on parlait un peu plus loin des bonnes pratiques, mais voilà, il y a parfois, quand on dispose pas d'outils ou de ce type-là, ben, on peut vite déraper, faire des très mauvaises pratiques et voilà, coller les secrets sur des post-it ou voilà, se les échanger avec des manières peu sûres, des mails pas en clair, des choses comme ça.
Ou même quand on est de l'autre côté de la planète, c'est comment on s'envoie le secret, parce que les SMS, c'est quand même pas terrible.
Moyen.
Et finalement, je t'ai laissé embêter tout le monde, mais j'ai exactement le même problème, et on va parler des différentes solutions que j'ai utilisées par le passé, et comment on peut même les détourner de leur but initial. Donc maintenant qu'on a identifié toutes les parties du code et de l'infrastructure qu'on veut protéger, on va regarder quelques pistes. Donc une première piste qui est facile à mettre en œuvre, c'est de mettre des secrets dans des variables. Donc là, ça va protéger le code parce que la variable d'environnement n'est pas commutée avec le code. Ça va probablement protéger la machine en elle-même, puisqu'on peut très bien mettre les secrets dans un fichier qui est dans un volume temporaire. C'est notamment comme ça que fonctionne Docker avec sa partie secret. Et le gros intérêt, c'est que cette partie secret est totalement volatile. Si la machine reboot, les secrets ont disparu. Quand on va vouloir stocker des secrets sur du disque, donc bien entendu, on va les chiffrer. Donc avec du chiffrement symétrique ou asymétrique, peu importe, mais il faut que l'attaquant qui va récupérer les données ne puisse pas les récupérer en clair. Et après, il y a une autre solution que j'aime bien, donc ça peut être utilisé avec les deux solutions précédentes, mais c'est des credentials dynamiques. Donc par exemple, quand vous avez un accès à une base de données, un accès à un serveur, traditionnellement, on récupère un login mot de passe pour se connecter à la base de données, au serveur, ainsi de suite. Il y a une autre solution, c'est d'avoir des credentials dynamiques. Donc, au lieu d'avoir un login qui va perdurer jusqu'à ce qu'il soit supprimé, on va vous créer un accès sur la bonne ressource, et cet accès-là, il va être disponible qu'une période de temps, pardon. Donc par exemple, je vais demander un accès à ma base de données Postgre. Je sais que cet accès-là va être disponible pendant 4 heures, 4 jours, peu importe. Mais à la fin de cette période-là, soit on va lui dire « prolonge-moi la durée de ce credential-là » ou alors tout simplement il va expirer et comme on a des cycles de vie de plus en plus rapides, on redémarre un nouveau conteneur avec un nouvel accès et du coup on redémarre sur des bases saines. Le gros intérêt de ces credentials dynamiques, c'est que si jamais un compte est compromis, dans quelques jours, il sera inutilisable. Donc, ça complexifie la tâche des attaquants. Une question qui reste, c'est mais qu'est-ce que c'est qu'un secret?
Oui, c'est la question que je me suis posée, c'est... Qu'est-ce qu'on entend par secret pour notre auditeur? Parce que finalement, nous, on sait ce que c'est qu'un secret, mais qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on définit un secret? À titre personnel, j'ai tendance à considérer que les mots de passe d'accès aux services ou aux bases de données, donc les tokens, c'est des secrets. Parfois même, je considère que les noms d'utilisateurs sont des secrets. En gros, pour moi, tout ce qui est une donnée que j'ai pas envie de faire échapper, de se voir échapper, pour moi, c'est un secret. Ça peut même être des URL d'API particulières. Typiquement, si je prends l'exemple d'OpenStack, OpenStack, on a une URL particulière pour l'API qui nous est propre. Et ben, je peux considérer que ça, c'est un secret, par exemple. Est-ce que vous avez une autre définition de ce que peut être un secret, justement?
Moi, je dirais simplement toute information sensible qui, en étant partagée pour engendrer des problématiques de sécurité, après, moi, c'est assez large, assez vague, mais c'est dur de définir précisément. Je pense que ça peut être intéressant de donner pour nos auditeurs quelques types. Donc, il y a bien évidemment les mots de passe. Il y a aussi, ça peut paraître con, mais on les oublie, les certificats qui sont aussi des secrets. Il y a les certificats, les clés privées. Bien sûr, votre clé SSH, votre clé PGP, etc. sont des secrets. Si vous en voyez d'autres qui paraissent évidents, là, j'en ai pas sous la main.
Au-delà des mots de passe, il y a aussi les tokens qui, eux, sont encore plus fragiles parce que c'est juste une seule chaîne de caractères. Mais quand on protège un mot de passe, pensez à protéger l'utilisateur en même temps, parce que l'utilisateur, ça va être le premier élément qui va servir à l'attaque. Si on a l'utilisateur, on sait qu'on peut faire du brute force sur l'utilisateur. Donc effectivement, on n'a pas le mot de passe, mais si on a déjà l'utilisateur, c'est une première simplification.
Ouais, alors une fois qu'on a défini nos secrets, qu'on sait de quoi on veut se protéger, finalement, la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on va garder ou comment est-ce qu'on va partager nos secrets avec les membres de notre équipe. Du coup, là, on parle d'avant la mise à disposition des secrets dans l'infrastructure as code, c'est vraiment la collecte des infos et puis le fait de garder nos infos. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on a des bonnes pratiques et des outils? Je sais que René voulait nous parler justement de l'échange de secrets. Et ce genre de choses.
Waouh. Alors oui. Alors on a. Bah, et après il y a différentes techniques, plus ou moins avancées, suivant les tailles des équipes. Si on est le seul administrateur, un exemple d'outil qui peut être utilisé, c'est KeePass. Ou qui passe XC, donc des coffres forts entre guillemets personnels où on peut stocker nos secrets, et voilà, qui sont bien plus efficaces que de stocker ça dans une feuille Excel. Voilà, après on peut éventuellement partager la base avec certains collègues, voilà, c'est possible aussi. Ça reste une solution facile pour des petites équipes. Après, ça devient plus compliqué. Dans certains environnements, pour s'envoyer par exemple des mots de passe, on peut utiliser du chiffrement avec des outils comme GPG. Donc voilà, ça c'est un peu historique. Éventuellement, on peut utiliser des mails chiffrés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis après, on a des outils plus évolués, mais peut-être que Christophe, je vais te laisser en parler de ces outils un peu plus évolués.
Ouais, parce que justement, tu citais KeePass. Nous, on utilisait KeePass X chez Lydra avant. Mm-hmm. Maintenant, on est passé chez Bitwarden, donc il y a une solution en ligne du coup. Nous, on utilisait KeePass X synchronisé avec notre Nextcloud, donc c'était déjà bien sécurisé, mais c'était pas super ergonomique. De manière ergonomique, nous, on utilise Bitwarden. On a essayé aussi Passbolt, qui sont deux outils similaires. On a une préférence pour Bitwarden, qui permet justement de gérer les secrets, gérer les accès aux secrets aussi, puisqu'on stocke des mots de passe, mais pas que. Dans Bitwarden, on peut stocker plein d'autres choses, y compris des cartes bleues par exemple. C'est intéressant dans le cadre d'un business, mais on peut gérer plein de chaînes de caractères, des fichiers, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et Nicolas, je crois que tu as ici un autre outil dont tu voudrais nous parler pour stocker des mots de passe et des secrets.
Oui, alors moi je l'utilise depuis très très longtemps, ça doit faire au moins une dizaine d'années. Donc alors il n'est pas du tout open source, il est très propriétaire, c'est 1Password. Donc le gros intérêt de 1Password, c'est que il peut se synchroniser de plein de manières différentes. On a des clients qui sont disponibles sur pas mal de systèmes d'exploitation. Donc moi je suis sur Mac, j'ai déjà utilisé le client Linux, le client Windows, pardon. Le client Linux, il y en a une version qui est intégrée dans le navigateur web. Et depuis à peu près 5 ans, peut-être un peu plus, ils ont une version en CLI. Donc c'est super pratique parce que on peut aller chercher dans les secrets avec de la CLI et avoir des usages un petit peu détournés dont on parlera tout à l'heure. Et tout récemment, l'année dernière, ils ont rajouté une fonctionnalité qui, de mon point de vue, manquait cruellement, c'était du partage de mots de passe. Donc avant, il fallait avoir un coffre-fort qui était partagé avec d'autres personnes. En plus, c'était un compte payant plus cher, etc. Et en fait, l'application est tellement bien que j'ai pris la version familiale et j'ai passé tous mes enfants dessus. Donc mes enfants ont un 1Password. Je pense que ça doit être les seuls dans leur collège et lycée respectifs, mais bon. Mais pour tous ceux qui n'ont pas de 1Password, il y a une fonctionnalité de partage. Donc ça crée une URL. On peut lui donner une temporalité, on peut lui dire c'est en accès, en lecture, écriture, machin, etc. On donne l'URL et la personne avec l'URL peut avoir accès au secret. Donc, si on veut partager un compte d'un truc qu'il faut pas faire comme Netflix, on peut partager temporairement le compte avec quelqu'un d'autre. Et je crois même qu'il y a une fonctionnalité où au moment où on clique, ça révoque automatiquement le lien. Donc, la personne qui a lu le secret le verra directement. Donc après, au-delà de ça, il y a plein d'autres fonctionnalités comme ça va aller regarder dans une base de données en ligne sur les mots de passe qui ont leaké. Pour la petite histoire, c'est la société qui a créé cette base de données, c'est l'éditeur de 1Password, qui maintenant est utilisé par plein d'autres gestionnaires de mots de passe pour savoir si votre mot de passe a leaké. Et il va vous faire des audits régulièrement du style celui-là de mot de passe il est trop faible, celui-là vous l'avez réutilisé tant de fois et ainsi de suite. Donc c'est vraiment pour inciter les utilisateurs à avoir des mots de passe différents sur toutes les applications, parce que ça on n'en a pas parlé, mais c'est une des bonnes pratiques, c'est ne pas réutiliser deux fois le même mot de passe.
C'est même la bonne pratique, pourquoi alors pour comprendre. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas incité là-dessus, mais si vous mettez votre mot de passe un peu identique partout, bah à partir du moment où vous êtes fait, imaginons il y a une fuite de données chez un de vos fournisseurs qui est stocké bien sûr tout ça en clair, parce que sinon c'est pas marrant, bah potentiellement la personne elle a votre mail, elle a votre mot de passe, donc elle a potentiellement accès à tous vos comptes, et à partir du moment où elle a accès à plusieurs de vos comptes, ça peut très vite être empirique et devenir très problématique, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter ça.
Ouais, et si vous êtes maso comme moi, vous changez de mail à chaque fois aussi.
Oui.
Ouais, je pense que ce qu'il faut bien montrer aussi avec ces outils-là, donc Bitwarden, Passvault, 1Password, c'est qu'il n'y a plus la nécessité d'avoir un secret partagé entre les membres de l'équipe. Chacun a son compte, son propre mot de passe, et on sait qui a accès à tel secret. Et si demain on veut que cette personne n'ait plus accès au secret, on peut, parce qu'elle s'en va de la société ou etc., on peut donc arrêter ce partage de secret. Bon, bien sûr, il faut renouveler le secret, hein, sinon la personne, si elle l'a enregistré, elle le connaît. Hein.
Oui, alors juste, on peut parler des bonnes pratiques aussi d'échange de mots de passe, parce que je crois qu'on est tous ici, on a vu ce genre de choses. Mots de passe échangés par mail non chiffré, non signé. Mots de passe échangés sur Slack. Mots de passe échangés, le pire que j'ai vu, c'est mots de passe... Excusez-moi. L'intégralité des secrets, des accès et des tokens partagés dans une feuille Excel Teams. Pas Teams, comment ça s'appelle ?
SharePoint.
SharePoint, voilà, exactement, merci. Peut-être qu'on fait référence au même client. Mais voilà.
Je pense pas, mais c'est mon...
Ce genre de choses, ne le faites pas, par pitié, ne le faites pas. Prenez un compte, au pire, achetez un compte chez Bitwarden, parce qu'en plus, alors, je dis Bitwarden parce qu'en plus, c'est un logiciel libre, mais c'est hébergé en Europe, mais surtout, c'est chiffré au niveau du navigateur, ce qui fait que même l'hébergeur a pas votre mot de passe, c'est impossible. C'est votre navigateur qui va déchiffrer le truc. Donc, partagez vos mots de passe avec un gestionnaire de mots de passe. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma préférence. Hein. Ne faites pas autre.
Alors, c'est vrai. On a parlé de gestionnaire de mots de passe en partant du principe que tout le monde savait à peu près ce que c'était. Le gestionnaire de mots de passe va effectivement chiffrer tous vos mots de passe avec une clé unique. Donc c'est cette passe-phrase qui va vous permettre de déchiffrer votre coffre-fort, et après vous aurez accès à tous les secrets qui sont stockés dedans. Après, certains sont plus ou moins évolués, je peux pas m'avancer sur Bitwarden et Passvault, mais qui passe la passe-phrase, c'est la passe-phrase qui permet de déchiffrer la clé qui a permis à chiffrer tous les secrets. Et 1Password, il y a plusieurs niveaux de secrets, donc il y a un premier token à avoir, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas y avoir accès, et il faut aussi la passe-phrase qui vous sert à déverrouiller le coffre-fort à chaque fois. Et vous pouvez rajouter d'autres facteurs. Moi, j'ai rajouté ma YubiKey sur tous mes coffres 1Password, ce qui fait que maintenant, en plus, il me faut la clé physique pour pouvoir déchiffrer tout ça.
La promesse derrière d'un gestionnaire de mot de passe, c'est justement, comme on disait, il faut avoir un mot de passe qui est fort et différent sur chaque site. On se doute bien que très vite, humainement, c'est plus possible de tous les retenir. Donc là, l'idée, c'est vous retenez une master key et derrière, vous n'avez plus à vous préoccuper de rien. Il va compléter automatiquement sur votre navigateur, souvent avec des extensions et choses là, des informations de connexion. Donc ça fonctionne très bien. D'ailleurs, j'ai une petite question, parce que tu parlais de double authentification. C'est vrai qu'il faut l'activer sur vos comptes. C'est quand même un gros step-up au niveau sécurité, on va pas se mentir. Et j'ai une petite question, parce que moi, je suis un peu opposé à la pratique. Je fais partie des personnes qui veulent pas mettre mes tokens de double authentification dans mon gestionnaire de mot de passe, sauf des comptes ultra génériques ou des comptes d'administration de sites spécifiques qui sont pas rattachés à une personne physique. Mais vous en pensez quoi? Est-ce que vous stockez vos tokens MFA dans le même secret qui stocke votre mot de passe?
Alors, quel compte.
Ouais, tu parles des tokens de recouvrement.
Ouais, ou même du token de base. Avec un token, tu peux générer tes tokens temporaires. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui les stockent dans leur gestionnaire de mot de passe. À part pour les comptes génériques qui sont pas rattachés à une personne, je trouve ça un peu, moi, ça me perturbe de me dire que le deuxième facteur d'authentification, il est accessible au même endroit que le premier.
Alors moi, pour être honnête, je les stocke dans mon Nextcloud, dans mon espace privé, et parfois je le chiffre. Même à double authentification, c'est mon smartphone, donc du coup j'ai une application dessus qui me génère mes double authentifications, mais c'est pour ça que je parlais des
recovery codes
de recouvrement. Ouais, les recovery codes. Bon, on a un peu parlé des gestionnaires de mots de passe, mais parce qu'en fait les gestionnaires de mots de passe permettent de gérer des mots de passe, des noms d'utilisateurs, des fichiers, enfin un peu tout, donc ça permet facilement de mettre tout un tas de types de secrets. Mais en fait on est là pour parler d'un phrase code. Et quand on fait de la phrase code, moi je suis très GitOps, vous le savez, j'ai fait un épisode de podcast justement là-dessus, sur le GitOps. Et la première chose qu'on peut faire, et en tout cas c'est le plus facile, c'est mettre ses secrets dans Git. Tout à l'heure on parlait de pas mettre ses secrets dans Git, mais mettre ses secrets dans Git c'est une possibilité. Mais par contre il faut pas les mettre en clair, il faut les chiffrer. Donc on a plein de choses pour les chiffrer. Mais Damir va nous dire justement, comment est-ce qu'on peut ne pas les mettre en clair dans Git?
Ouais, alors on a tous connu, on l'a peut-être fait, ça peut arriver, ou on a peut-être connu quelqu'un qui l'a fait, en tout cas, eu un moment où un secret, un token, souvent un token, hein, ça c'est le classique, le petit token pour se connecter qui a été commit et qui a été push sur le repo, c'est quelque chose qui est problématique. Donc bien sûr, généralement, si on arrive à répondre assez vite, on va pouvoir le supprimer et le renouveler, pas oublier de le renouveler quand un token fuite, bien sûr. Mais on aimerait bien éviter que ça arrive avant. Donc pour ça, il y a un petit outil qui se base sur les hooks Git. J'en ai déjà parlé pas mal de fois parce que je l'ai découvert il y a quelques années maintenant et c'est quand même quelque chose qui change la vie, qui permet d'automatiser des actions. Et il y a un outil en fait qui permet particulièrement de le faire au niveau avant de commit une action. Ça s'appelle pré-commit. Et avec ce système, vous allez pouvoir mettre des vérifications pour vérifier que lorsque vous allez faire un commit, il va checker s'il voit pas de secret en clair. Alors ça marche pas à 100%, vous allez possiblement trouver des use cases où vous pouvez commit un secret, mais il va permettre de vous éviter certaines erreurs et de commit certaines choses, donc ça peut vous sauver la vie, entre guillemets. Donc je conseille vraiment de le faire, ça coûte pas grand chose, ça vous permet d'automatiser d'autres choses hein, en même temps, il n'y a pas que les secrets. Donc là-dessus, vraiment, c'est à faire.
Je confirme, les hooks de pré-commit, les hooks Git de pré-commit, c'est indispensable, on l'a mis en place, c'est vraiment bien. Ça permet de tester des secrets s'ils sont clairs. Il faut avoir des patterns évidemment, ou alors de tester. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on met tous nos secrets dans des fichiers qui s'appellent .vault. Quelque chose. Et si ces fichiers-là sont pas chiffrés, on arrête. Par exemple, le hook de pré-commit. Et donc, il y a quelques outils qui permettent de chiffrer nos secrets dans Git. Je vous en avais parlé justement dans la trouvaille du vendredi du 13 août de 2021. Donc il y a le premier qui est pour l'instant celui que j'utilise le plus, qui est Ansible Vault, qui est assez facile. Hein. Il y a deux commandes, une commande pour chiffrer, une commande pour déchiffrer. Ça se base sur un mot de passe qui peut être dans un fichier ou alors qu'on peut renseigner au moment de faire la commande. Et je pense qu'on va petit à petit migrer vers le deuxième dont je vais parler, parce que Ansible Vault c'est bien, mais ça a ses limites, notamment ça chiffre l'intégralité du fichier. Ce qui fait que quand vous avez des fichiers versionnés dans Git, eh ben, vous voyez pas trop les différences, en fait. Donc, si vous avez plusieurs variables, par exemple, nous, on l'utilise dans le cadre d'Ansible. Si on a plusieurs variables dans un fichier, on voit pas laquelle a été modifiée, en fait. Il y a tout le fichier qui a été modifié. Et du coup.
Tu peux chiffrer entrée par entrée, mais c'est vraiment pénible.
Ah, bah, écoute, je savais pas. Mais je vais parler justement de Mozilla SOPs, qui est certainement la solution qu'on va utiliser, qui permet de chiffrer le contenu des variables, puisque apparemment c'est fait pour ça. C'est un autre outil qui permet justement de chiffrer des parties de fichiers. Et je pense que c'est plus facile qu'Ansible Vault, en l'occurrence. Et enfin, il y a GitCrypt, que pour le coup, j'ai pas utilisé, mais qui a l'air d'être assez utilisé par la communauté pour chiffrer aussi des données. René, on a ajouté un, je crois, dessus. Je crois que c'est toi.
Oui, oui. Alors, c'est, en fait, c'est une alternative à GitCrypt. Alors, GitCrypt, pour, si je me souviens bien, c'est un binaire. Et en fait, on a GitSecret, qui, lui, c'est plutôt s'appuie sur GnuPG et du script bash pour faire à peu près l'équivalent. Voilà.
Et l'avantage, en fait, c'est qu'une fois qu'on a chiffré nos secrets, eh ben, on peut les mettre et on peut les versionner dans Git. Et du coup, le code d'infrastructure, il contient aussi les secrets d'infrastructure. Et comme ça, quand on déploie l'infrastructure, ben, les secrets, ils suivent. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher ailleurs. C'est pour des petites équipes et des petits projets, je trouve que c'est un très bon compromis. Je pense que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Bah, disons que c'est mieux que le fichier Word ouvert dans une machine à distance en RDP, quoi. Donc oui, c'est sûr que c'est un premier niveau. Après, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de maturité, et clairement, c'est je pense le premier vrai niveau. On commence à avoir quelque chose de solide, de plutôt solide en termes de sécurité par rapport à taille de l'équipe.
Ouais, je pense que c'est vraiment ça le différenciateur. C'est que cette pratique-là, elle scale pas trop. Sur les grosses équipes, forcément, c'est compliqué.
On est assez d'accord, pour les grosses équipes, ça devient vite limité. Par contre, pour déchiffrer ces secrets, parce que souvent, quand on est dans une optique GitOps, c'est la CI qui va aller soit faire du pool et donc générer notre infrastructure, il faut quand même que la CI puisse déchiffrer ses secrets. Et souvent, il y a un secret pour déchiffrer les secrets. Et du coup, ce secret-là, cette master key, ce secret principal, il faut la mettre quelque part. Et le quelque part, en l'occurrence, c'est souvent les variables de la CI. Et donc là, il faut faire confiance à soit son hébergeur de CI, soit faut héberger soi-même sa propre solution.
Bon, il faut avoir confiance aussi dans ton équipe, parce que potentiellement, si une personne a le droit de modifier son job CI, c'est un GitLab par exemple, s'il touche le GitLab CI, il pourrait faire juste un écho de la variable avec ta master key et récupérer tous les passwords, non?
Eh ben non.
Alors, normalement, c'est bien foutu, parce que il va systématiquement remplacer tes secrets par des étoiles.
Ça, c'est beau quand même.
Oui, oui, GitLab. Il y a une notion de secret. En plus, GitLab a plusieurs solutions, plusieurs gestions. Donc, du coup, tu peux accéder ou pas aux variables de la CI en fonction de ton niveau. Tu peux afficher ou pas le contenu de ton secret, parce qu'une variable peut ne pas être un secret. Mais surtout, tu peux rendre la variable présente ou pas dans certaines branches.
Ok. Là, du coup, de toute façon, on en aura besoin dans toutes les branches potentiellement, vu que c'est ta master key, t'as tous les mots, bah, tous les secrets dedans.
Ça dépend, tu peux avoir des clés par environnement, par exemple. Tu peux aller jusqu'à ce niveau-là.
Tu peux avoir un git crypt avec plusieurs niveaux de plusieurs master key dessus.
Bah, si par exemple tu utilises Ansible Vault, Ansible Vault, il se base sur un fichier.
Non, mais là, je parlais plus de git crypt et de git secret. Ansible Vault, puis je sais qu'il y a moyen, mais c'était plus pour les autres solutions.
Alors, je vais pas parler pour GitCrypt, mais je pense que c'est la même chose. Mais sur GitSecret, c'est du chiffrage, c'est asymétrique. Donc, il n'y a pas un secret partagé, en fait. Du coup, tu définis qui va pouvoir déchiffrer, en fait.
Ah oui, tu as dit que c'était sur PGP. Excuse-moi.
Pas de souci.
Donc, maintenant qu'on a parlé des petites solutions pour petites équipes, on va rentrer dans le dur et les gros trucs, quoi. Les trucs que je connais pas, donc c'est vous qui allez m'aider. On va parler des coffres-forts. J'ai appelé ça coffre-fort, mais parce que c'est le terme anglais. Hein. Et on va commencer par les bonnes pratiques liées aux coffres-forts. Qui veut commencer à nous briefer un tout petit peu sur ces fameux coffres-forts et après vraiment nous donner ces bonnes pratiques-là?
Moi, je peux en parler, mais vous allez me voir bouger un petit peu parce que j'ai les batteries de mon casque qui sont en train de me lâcher. Donc, dans les coffres-forts, on va avoir différentes solutions. Celle qui fait un petit peu référence et que je connais le mieux, c'est Vault, donc la solution d'HashiCorp. Donc c'est un produit qui a été designé pour gérer tout ce qui est secret. Donc ça permet de gérer pas mal de choses. Damir parlait de, par exemple, de certificats, notamment TLS. Donc Vault permet de gérer la partie privée, publique, de les générer pour nous et ainsi de suite. Ça permet aussi de générer tous les secrets. Tout à l'heure, je parlais de secrets dynamiques. Bah, typiquement, Ansible Vault est vraiment bien foutu pour ça. Et il a été prévu pour fournir de l'infrastructure. Mais en préambule, je pense qu'on pourrait parler de bonnes pratiques, parce que toutes les solutions dont on va parler un petit peu plus tard utilisent à peu près toutes ces pratiques-là. Et je suis en train de chercher.
Pendant que tu cherches les bonnes pratiques, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, un coffre-fort, c'est un endroit où on va mettre l'intégralité de nos secrets et qui va pouvoir être accessible soit par notre CI, soit par notre infrastructure, soit par nos services qui sont dans l'infrastructure. C'est ça que j'entendais dans le coffre-fort. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition?
Oui.
J'espère que tu as retrouvé tes petits.
Oui, c'est bon. Donc, dans toutes nos bonnes pratiques, ça va être la rotation automatique des secrets. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est autant les mots de passe pour une personne physique. Changer régulièrement de mot de passe, ça commence à être considéré comme une mauvaise pratique. Parce que pour information, la personne qui avait créé cette règle de... il faut changer son mot de passe régulièrement. C'était une personne qui travaillait au NIST, je crois. Il est parti à la retraite récemment. Il a dit, non, mais en fait, faites pas ça. Quand j'ai dit ça, je savais pas de quoi je parlais. Donc, arrêtez d'obliger vos utilisateurs à changer régulièrement de mot de passe parce qu'ils finissent par les noter sur des post-it. Par contre, sur l'infrastructure, nos serveurs, eux, ils ont pas de post-it. Donc, ils peuvent pas les noter. Par contre, il faut bien le noter quelque part. Donc tout à l'heure, je disais qu'on allait les stocker quelque part. Donc par exemple sur le disque, et un fichier qui est stocké sur le disque, à un moment donné, il va leaker. Donc si vous voulez pas qu'il se retrouve dans la nature et qu'on puisse récupérer d'autres informations avec votre mot de passe, il va falloir mettre en place une rotation automatique de ces credentials. Donc je parlais de Vault qui permettait de faire ça automatiquement. Donc il va vous créer un credentials à la volée. Et vous allez le fournir à votre application au moment où elle va démarrer. Et quelques heures, quelques jours plus tard, ce credentials-là va être supprimé. Donc prévoyez ces trucs-là de générer un nouveau secret régulièrement et de mettre à jour votre application. Le gros intérêt de faire ça, ça va être deux choses. Déjà, le premier, c'est que vous allez avoir régulièrement des secrets qui vont changer. Donc, quand votre secret va liker, c'est pas grave, il sera déjà périmé. Et le deuxième intérêt à faire ça très régulièrement, c'est que ça va vous amener une routine de changement des secrets. Et plus vous allez changer ça régulièrement, plus vous allez être rompu à « on a un secret qui a liké, bah c'est pas grave, on clique sur un bouton, on régénère un secret, on remet à jour l'infrastructure ». Et c'est, de mon point de vue, c'est une des premières défenses pour protéger vos données. Après, il y a un truc qui est très important à faire, et là, je vais laisser Damir en parler.
Après, comme tout, et ça, c'est un sujet assez... qu'on a déjà abordé dans une émission de Radio DevOps, mais c'est on a déjà parlé, mais pas de backuper tout ça au même endroit, comme la data entre guillemets qui va contenir votre base de données chiffrée entre guillemets va être déchiffrée avec un mot de passe. Si vous devez sauvegarder deux, sauvegardez pas les deux au même endroit parce que si la sauvegarde un jour est chopée, vous allez vous faire avoir. Et au-delà de ça, on parlait du but et en fait de ce qu'est un coffre-fort. Un coffre-fort, globalement, ça va être vraiment à quelque chose. Je vois vraiment comme un service, une brique de service qui va vous permettre, en fait, d'exposer une manière de retrouver vos mots de passe. Et pour retrouver ces mots de passe, en fait, nous, on veut quelques caractéristiques. Notamment, on veut que pas tout le monde puisse accéder à tous les mots de passe. Vous vous doutez bien que si on est une entreprise, on veut que certains mots de passe, ben, ils soient pas accessibles, on va dire, à n'importe qui. On veut aussi que, potentiellement, j'ai déjà eu des cas de grosses entreprises, notamment des banques, où aucun humain n'avait accès, en fait, réellement aux mots de passe. 99% des mots de passe de production étaient utilisés par des bots uniquement ou des automatismes. Donc, nous-mêmes, on n'y avait pas accès. Ça évite des fuites, tout simplement. Une autre chose aussi qui est importante, c'est les logs d'accès. Parce que bah, si jamais une fois une personne a accès à un log, accès à un mot de passe qu'elle n'aurait pas dû, ou on a une modification de mot de passe suspecte, c'est important, point de vue sécurité, de pouvoir tracer ce qui s'est passé et qui a fait l'action, ou le mot de passe, à partir de quand il a fuité. C'est quelque chose en sécurité qui est assez, assez important et assez vital, je dirais même. Et bien sûr, quand vous voyez les logs, vous les centralisez. Ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais la centralisation des logs, c'est important pour l'aspect de sécurité. Et bien sûr, il y a aussi une autre technique, et ça, c'est pour moi assez important, même si ça dépasse peut-être un peu le cadre des coffres-forts, c'est utiliser des systèmes d'authentification fortes, que ce soit sur les coffres-forts ou d'autres choses. Mais je prends un exemple, d'AWS, que c'est l'exemple que je connais un peu le mieux, on va dire. Sur AWS, si vous devez vous authentifier au Vault, vous avez une application qui tourne, par exemple, sur une EC2, vous devez vous authentifier à un Vault pour bootstrap des secrets sur votre application. Le faites pas avec un secret de base. Ne mettez pas un mot de passe en clair qui va se connecter à votre Vault. Vous pouvez essayer des choses comme les signatures avec les metadata de l'instance qui vont pouvoir s'authentifier, en fait, au Vault avec les metadata de l'instance plus la signature d'AWS. Ce qui fait que demain, si jamais votre volume a froid, et dumper en fait à l'extérieur ou autre chose, ils auront pas vos secrets, et même s'ils sont sur AWS, vu que c'est pas signé par AWS entre guillemets en cours de run, ben ils auront pas accès en fait à ces secrets. Donc du coup, ça c'est typiquement un workflow, on va dire, qui fonctionne avec Vault, HashiCorp Vault, mais qui fonctionne très bien, et il y a pas mal d'exemples là-dessus de systèmes qui vous permettent de faire de l'authentification plutôt efficace sans pour autant exposer trop de surface, on va dire, d'attaque ou de possibilités, en fait.
Quand tu parlais de backup et du backup de la clé, ça m'a fait penser à autre chose par rapport à Vault, c'est que par défaut, il va chiffrer votre base de données avec une clé privée qui, elle, va être rechiffrée avec un algorithme type asymétrique. Et en fait, pour déchiffrer cette clé-là, il faut par défaut 5 secrets. Donc le principe, c'est que vous allez initialiser votre base de données en disant j'ai 5 personnes dans mon équipe et il m'en faut minimum 3 qui vont rentrer chacun leur morceau de secret. Donc c'est l'algorithme qui est basé sur Shamir, donc c'est un de ceux qui a créé RSA. Et c'est un algorithme de chiffrement-déchiffrement qui permet de pour déchiffrer votre secret sur un nombre de passe-phrases, il va vous en falloir un minimum. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, par défaut, vous avez 5-10 personnes dans l'équipe, vous allez chacun leur générer un secret, et vous allez dire qu'il faut X personnes pour pouvoir déchiffrer les données. Donc par exemple, 2 personnes doivent rentrer leur secret pour pouvoir déchiffrer la base. Ça permet un truc qui est super important, c'est que si jamais la base est arrêtée au moment où il faut redémarrer, il faut qu'il y ait 2 personnes qui soient disponibles. Alors ça, c'est la contrainte. Le gros intérêt, c'est que si jamais une personne mal intentionnée récupère cette base-là, la met chez lui et la redémarre, il pourra pas la réouvrir pour pouvoir aller faire tout ce qu'il veut dedans. Donc ça vous permet de...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck.
On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Garantir que s'il y a une action malveillante, bon, bah, y a deux personnes qui seront complices ou trois personnes, mais c'est pas une personne isolée dans son coin qui pourra récupérer l'intégralité de la base de données.
Justement, vous en avez beaucoup parlé, alors peut-être qu'on peut parler plus précisément de la solution Vault, parce que quand on pense à coffre-fort, moi, la seule idée que j'ai, c'est HashiCorp Vault. Je ne sais pas comment on faisait avant qu'il existe, mais en tout cas, je le vois un peu de partout dans les grosses infrastructures. Est-ce que vous confirmez qu'il est surutilisé de partout dans les vraiment infrastructures assez costaudes?
Mais c'est devenu un peu un standard, en fait, par défaut, pour le coup, HashiCorp Vault. Parce que on va pas se cacher, HashiCorp sont très bien installés sur la stack DevOps, hein, on va pas se leurrer là-dessus, donc c'est plus simple pour eux de pousser un produit de leur écosystème, et ben c'est un produit qui est ultra efficace, hein, il y a rien à redire, et qui a beaucoup d'intégration avec beaucoup de produits populaires. Donc là j'ai parlé avec AWS, le workflow il marche très bien nativement, marche aussi très bien avec du Helm ou du Cube classique, donc je pense que ça fait un peu son succès là-dessus.
Est-ce que c'est facile est-ce que c'est facile à maintenir un Vault en fait?
Alors j'allais compléter un petit peu la réponse de Damir. Il est aussi parfaitement intégré à Nomad, qui est une alternative avec Kubernetes. Et en fait, au moment où Nomad charge son fichier de description, il va charger à la volée les secrets dans Vault. Et après, bah, pour répondre à la question, est-ce que c'est facile à installer? Bah oui, c'est facile à installer. Tu suis le tutoriel et paf, c'est fait en 2 minutes. Après, est-ce que c'est facile à administrer sur du long terme? Beaucoup moins. Et en fait, ça dépend du niveau de fonctionnalité que tu vas vouloir avoir et des contraintes de sécurité que tu vas te mettre dessus. Par exemple, je parlais des secrets qui vont avoir une durée temporelle et de la complexité de mettre à jour ces secrets dans l'infrastructure. C'est par défaut, c'est toute l'authentification d'un Vault se fait avec des tokens. Alors, il y a différentes formes de tokens. Il y a des tokens classiques, il y a des tokens applicatifs, et ainsi de suite. Mais globalement, un token va avoir une validité dans le temps. Et une fois que le token a expiré, il est devenu inutilisable. Donc il faut savoir régénérer des tokens pour pouvoir les repousser dans l'application et il faut savoir le faire de manière automatique. Donc je dirais que c'est peut-être plus cette partie-là qui est compliquée à gérer dans Vault, c'est la gestion de ces secrets et je pense que la plus grosse problématique, c'est que comme c'est un nouveau produit et une nouvelle manière de faire, on n'a pas encore tout ce qu'il faut dans notre outillage pour pouvoir le faire de manière automatique. C'est quoi ton expérience là-dessus, Damir?
Alors moi, c'est vrai que pour l'instant, j'ai une plus forte expérience de Vault à l'utilisation qu'à l'installation, à la maintenance. En fait, moi, quand j'ai utilisé Vault, c'était surtout dans des grosses équipes où du coup, c'était une équipe vraiment à part qui gérait ça ou séparée, ce qui fait que j'ai jamais eu vraiment de contraintes au niveau de la maintenabilité. Moi, j'ai plus une expérience d'utilisateur de Vault au niveau API intégration. Mais effectivement, après, je pense que le vrai, là, et je pense que tu fais bien de mentionner, c'est comme beaucoup de choses, ça dépend beaucoup du niveau d'exigence que tu vas avoir avec toi-même et avoir avec la sécurité par rapport à ça.
Oui, donc ce que je voulais dire, c'est ce qui explique un petit peu la difficulté d'utilisation du produit, c'est que c'est un produit, il devient critique en fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'il réponde à partir du moment où on met des secrets pour utilisation dans la CI, il faut que le produit soit toujours disponible, sinon on n'a plus accès aux secrets et la CI va tomber ou d'autres applicatifs vont tomber. Du coup, c'est un outil assez industriel, où on peut faire de l'achat qui est assez modulaire. Donc on peut avoir plusieurs instances de Vault en lui-même qui va vraiment s'occuper de la partie chiffrement et derrière après on peut le coupler avec un back-end Donc une deuxième brique pour le stockage. Alors après cette deuxième brique, eh ben ça peut être du Consul qui est la solution potentiellement à HashiCorp. Du coup, ben on maintient à la fois la brique Vault plus un peu la brique Consul, ou alors ben ça peut être d'autres backends type S3, etc. La liste est très très longue. ETCD dans le cas de par exemple d'un Cube, ça peut être intéressant de stocker aussi des choses dans ETCD. Donc voilà, c'est ce qui explique que ben ça a un certain coût d'entrée. Parce que ça devient vraiment critique et il faut vraiment assurer la disponibilité du service.
Et quand tu commences à mettre un truc comme ça en place, ça devient vraiment critique s'il ne démarre plus, parce que, en toute logique, plus rien redémarre derrière. Pour compléter un petit peu ce que tu disais sur la partie disponibilité et stockage, il y a un an ou deux, ils ont sorti un back-end de Raft. Donc Raft, c'est un protocole de mise en cluster. Et en fait, Vault est devenu totalement autonome. Donc on peut se passer d'un back-end tiers. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué parce que Consul, moi je l'ai beaucoup utilisé comme back-end et il est assez simple à mettre en place et à maintenir. Avec le back-end de Raft, j'ai un petit peu plus de mal à comprendre, mais par contre ça reste super intéressant de pouvoir avoir un Vault totalement autonome, parce que Vault va aussi amener toute la partie sécurité sur Consul. Donc si tu stockes ton Vault dans Consul et que tu te sers de Vault pour gérer les accès à ton Consul, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc le fait d'avoir un Vault totalement autonome, ça résout une partie du problème.
Justement, juste pour info, je viens de voir que sur Cube, il y a un opérateur Vault qui permet de gérer jusqu'au cycle de vie de Vault. Alors peut-être que ça peut être une piste pour les équipes de taille intermédiaire, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un produit super, mais pour les grosses entreprises.
Oui, c'est un produit extrêmement... Enfin voilà, c'est industriel quoi. C'est un produit complet qui répond, je pense, à tous les cas d'usage. Et du coup, comme il fait beaucoup de choses, il est un peu compliqué à appréhender quoi.
Moi, j'avais une question sur l'authentification, justement. Alors, on voulait parler d'authentification. Vas-y.
Alors justement, c'est aussi un des points forts de Vault, c'est que il peut être le point central de la gestion de la sécurité. Alors sécurité au sens secret et chiffrement, parce que donc on a parlé du fait qu'il pouvait stocker des secrets, on a parlé du fait qu'il pouvait générer des certificats TLS, donc plus clairement il a une PKI de disponible. Il gère des créations de secrets dynamiques, et en fait tout ça, ça va s'appuyer sur une authentification. Et en fait l'authentification, on peut avoir des tokens tout simples pour un utilisateur, mais quand on commence à avoir une entreprise plus grande et qu'on veut donner des accès aux développeurs, on peut aussi mettre de l'authentification. Alors je sais plus s'il y a du LDAP, mais il me semble que si. Par contre,
il y a de l'OpenID Connect de mémoire.
Alors il y a de l'OpenID, il y a du AWS IAM, il y a l'équivalent Google, il y a l'équivalent Azure, il y a une pléthore d'authentification, et pour chaque authentification, on va pouvoir dire il faut qu'il ait tel droit, il faut qu'il ait tel rôle, il faut qu'il ait tel truc, et ce qui fait que pour chaque secret, on va pouvoir dire tel utilisateur il a le droit de lire, tel utilisateur il a le droit d'écrire, et ainsi de suite. Donc en plus de l'authentification, il y a aussi des espèces d'ACL qui sont positionnées sur chaque secret.
Et est-ce qu'il existe, parce que à part j'imagine que HashiCorp fournit une solution d'hébergement, j'ai vu ils faisant un Vault Enterprise, mais est-ce qu'il existe des Vault as a Service à votre connaissance?
Alors, la partie Vault Enterprise, c'est pas une solution SaaS, c'est la solution. Ils ont une solution open source qui a des fonctionnalités limitées, et ils ont une version Enterprise qui va servir quand vous appelez Orange, Safran, ou je sais pas quoi, mais pas la petite boîte qui est en train de se monter dans le garage. La licence, je sais même pas combien ça coûte, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'euros par an, donc clairement pas accessible pour des petites boîtes. Par contre, récemment, ils ont commencé à mettre en SaaS toutes leurs solutions. Donc, ils avaient conçu les Nomades et c'est l'année dernière, ils l'ont sorti pour Volt aussi. Alors, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, ils ont pris à peu près le même modèle qu'Elasticsearch qui distribue leur solution en SaaS. Mais c'est, en fait, tu vas pouvoir souscrire le service Volt auprès de HashiCorp pour déployer la solution entièrement managée par HashiCorp sur un cluster qui va être entièrement dédié. Mais tu vas choisir ton provider. Donc tu vas si tu es chez AWS, tu vas pouvoir le mettre chez AWS. Si tu es chez GCP, tu vas pouvoir le mettre chez eux. Et la même chose chez Azure.
Du coup, ça veut dire que si tu veux le mettre sur des infras localisées en France ou autre, tu peux. Et eux, ils n'ont pas accès à tes secrets, ils managent la solution. Et toi, tu es protégé vis-à-vis de tes secrets, et par exemple, du Cloud Act ou ce genre de choses.
Ouais, alors tu es protégé à partir du moment
t'es où... Tu es moins exposé, j'aurais peut-être dû dire.
Bah, en fait, ils vont te fournir la master key. Donc, est-ce qu'il la sauvegarde dans un coin
d'accord. Encore j'avais... Non, excuse-moi, je pensais que tu générais toi-même ta master key.
Je crois pas, mais peut-être que si. Là, tu vois, j'ai un doute.
On parle bien de HashiCorp Cloud Platform, ma partie.
Oui.
Ok.
HCP qu'ils ont décliné pour Consul, Volt et maintenant et Nomad.
Et Terraform aussi.
Je sais plus dans quel sens. Alors Terraform, c'est différent. Oui. Mais ouais.
Mais c'est intégré, je veux dire, dans leur écosystème à ce niveau-là. Quoi.
Oui. C'est ça.
En tout cas, je vois sur leur site qu'il y a beaucoup de partenaires. Alors peut-être qu'en effet, il y a des partenaires qui fournissent du Volt as a service. Je pense qu'il faudrait les contacter si on ne veut pas gérer son propre Volt.
Je pense que les partenaires, ils entendent plus les personnes qui ont des niveaux de partenariat pour conseiller dessus ou des migrations. Moi, je le sais parce que notre entreprise est partenaire avec HashiCorp. Donc, on doit être dans la liste.
Mais si vous voulez, contactez-moi, je vous installe un Volt.
Est-ce qu'on a autre chose à dire sur Volt ou est-ce qu'on passe aux alternatives?
Alors, je vais juste compléter une dernière partie. C'est, on a parlé d'authentification, gestion des secrets, etc. Mais il y a aussi quelques fonctionnalités sympas comme je veux chiffrer une donnée pour la mettre dans ma base de données normale. En fait, ils ont aussi des mécanismes pour dire chiffre-moi cette donnée-là, redonne-moi la donnée chiffrée. Tu la stockes dans ta base de données où tu veux, et au moment où tu veux la déchiffrer, tu récupères la donnée chiffrée, tu la redonnes à Volt et il va te la redonner en clair. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui vont te permettre de simplifier la vie. Donc ça va te permettre de sécuriser vraiment toute ton infrastructure, mais aussi de si tes développeurs sont pas suffisamment à l'aise avec le chiffrement, bah, ça va leur permettre de chiffrer les trucs. Et ça, c'est un truc de manière globale, c'est ne faites pas votre propre chiffrement parce que sinon vous allez vous retrouver avec les données en clair. Donc au mieux, utilisez des librairies qui vont gérer le chiffrement pour vous. Au pire, utilisez GPG ou Volt, mais bricolez pas un truc dans votre coin. Le ROT 13 pour chiffrer les données, ça marche plus.
D'ailleurs, juste une petite précision, je ne sais pas si on l'a dit, mais Volt, du coup, il y a bien sûr un client en ligne de commande qui existe, qui est très bien fait, il y a une API et il y a bien évidemment une petite interface graphique si vous avez peur que certains développeurs soient un peu perdus au début, qui peut un peu aider à retrouver, entre guillemets, ces petits. Donc, c'est vraiment un bon produit, n'hésitez pas à regarder aussi un peu les intégrations, comme on a dit sur Rennes, sur AWS, etc., il y a moyen de faire des choses très intéressantes, sans trop de galères. Moi, j'ai jamais eu trop de galères à faire des trucs... Vous savez, avec 10 000 niveaux de dépendance pour en arriver à un truc automatique, généralement, ça se fait assez rapidement, assez facilement. Donc, n'hésitez pas à creuser un peu ça.
Oui, je pense qu'il y a pas mal d'intégrations aussi, toutes faites pour les bases de données, pour AbitMQ, enfin pour des produits un peu standards, classiques, quoi.
Il y a aussi pas mal de librairies dans pas mal de langages, ce qui fait que si vous voulez pousser à l'extrême la gestion de vos secrets, vous demandez aux développeurs d'intégrer le SDK dans l'application, et plutôt que de charger les secrets en variables d'environnement, il va aller demander le secret directement à Volt. Comme ça, vous fournissez que un token au moment où l'application démarre, donc ça sera un token Volt, et le token Volt, vous allez lui donner accès au secret pour la base de données, le secret pour RabbitMQ, le secret pour Stripe, et c'est tout.
Et ben maintenant qu'on a bien parlé de Volt, on peut peut-être parler des alternatives pour les équipes un peu plus... Ou alors pour les équipes qui veulent pas de Volt, par exemple. Et je crois que Damir a des solutions en SaaS.
Alors, c'est quasiment, je pense, la plupart des gros cloud providers le fournissent. Chez Scaleway, je crois que c'est en cours de développement d'ailleurs. Mais vous pouvez tout simplement utiliser les services de gestion de secrets qui sont offerts, qui sont, on va dire, proposés par les fournisseurs de cloud existants. Donc, je pense notamment à AWS Secret Manager et pour les autres, honnêtement, je ne saurais pas le nom. Mais il y en a à peu près sur tous les cloud fournisseurs, les cloud providers ou les fournisseurs cloud, si j'arrive à remettre mes mots dans le bon sens. C'est une solution qui, même si elle n'est pas portative, en fait, apporte quand même un bon niveau de sécurité. Surtout, vous n'avez pas à manager derrière des rotations de clés de chiffrement de bas niveau, etc. Ni des backups et des choses comme ça qui peuvent être un peu sensibles quand vous êtes une petite équipe, justement. Donc, ça peut être une très bonne alternative. L'autre chose qui est aussi bien, c'est que souvent, c'est très bien intégré avec l'écosystème dans lequel vous êtes. Donc, pour le coup, ça peut aussi, là-dessus, vous faire gagner un peu de temps. Quand on est une petite équipe, encore une fois, c'est des choses qui comptent. Donc, là-dessus, je peux que vous conseiller d'utiliser. Je sais pas si vous avez déjà utilisé des secret managers qui étaient fournis par les providers cloud. Ça marche. Moi, j'ai essayé juste AWS Secret Manager dans une petite équipe et ça marchait bien. On pouvait apporter même des clés de chiffrement externe avec AMS. Donc, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et sinon, une autre solution, c'est aussi de réduire des fois le nombre de secrets. Alors ça, c'est comme je disais, c'est par rapport au design des plateformes. Je reprends mon exemple avec AWS parce que c'est très utilisé. Là-dessus, c'est ce que je connais le mieux niveau exemple. Si vous avez une application, en fait, qui est, on va prendre un cas très simple, votre application tourne sur une machine virtuelle, donc une EC2 sur AWS, elle doit se connecter en fait à un autre service, une base de données ou autre. Vous seriez tenté en fait de créer un utilisateur en base de données et de le fournir en fait dans votre application par un moyen X ou Y. Mais en fait, si vous pouvez simplifier votre problème et plutôt que vous dire j'ai besoin de stocker ça de manière secrète et de pouvoir le provisionner de manière sécurisée, là vous pouvez tout simplement ne pas l'utiliser et ajouter par exemple un profil, un role IAM à votre instance qui va lui donner le droit de se connecter à votre instance RDS. Donc c'est le genre de choses qui peut vous éviter d'avoir trop de mots de passe et quand vous êtes une petite équipe, parfois ça peut vous enlever en fait les mots de passe qui vous embêtent un peu et vous pouvez vous contenter de solutions plus light comme on a cité au début pour gérer le reste des mots de passe. Ça peut être aussi une manière d'éviter le problème, on va dire, et de réduire le risque, notamment dans les petites équipes.
Justement, en parlant de solutions plus light, il y a certaines de ces solutions light qu'on a citées au début qui ont une API ou un client en ligne de commande. Et moi, je commence à me poser la question, pour aller un peu plus loin que juste ma gestion de secrets dans Git, mais sans aller vers du Vault, parce qu'on n'est pas une équipe extensible, on est moins de 5, hein. On est 3 en fait, donc 3, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'à partir du moment où, justement, on a un gestionnaire de mots de passe qui a une API ou un client en ligne de commande, est-ce que ça peut être une alternative crédible, justement, à ses besoins, et est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Par exemple, je vais citer Bitwarden a un client en ligne de commande, Passbolt a une API, un client en ligne de commande. Est-ce qu'on peut, justement utiliser ces solutions en tant que coffre-fort, plus simplement en tant que gestionnaire de mot de passe?
Moi, ce qui m'inquiète, je pense que oui. Après, en fait, il y a des points qui m'inquiètent, notamment l'auditabilité des logs d'accès ou des choses comme ça, ou les ACL qui seront beaucoup moins fines. C'est des choses qui personnellement, en fait, m'inquiètent, et l'intégration aussi. C'est toujours le genre de choses où j'ai eu à le faire une fois avec 1Password, mais c'était une version assez ancienne. Et on se retrouve à devoir recréer des petits scripts pour un peu rentrer dans ces use cases et les choses-là. Donc j'ai toujours un peu cette peur perso, et c'est pour ça que j'ai du mal à... On va dire, je les considère pas forcément au même niveau, on va dire. Plus comme des gestionnaires de mots de passe, plus que des vrais vaults ou...
Moi, j'ai connaissance de clients qui utilisent, par exemple, on n'en a pas parlé, mais LastPass, qui est un équivalent de 1Password, je pense, aussi, en SaaS, pour faire ce genre de choses. Voilà, donc je pense que ça peut, faut pas s'attendre à la même chose qu'avec Vault, c'est pour des implèmes plus light. Après,
oui, c'est vraiment le but, hein. C'est pour des implémentations plus légères. J'ai justement, quand j'ai cherché des alternatives à Vault plus légères, j'étais tombé sur un projet, mais que je ne connais pas, qui s'appelle Psono, qui apparemment fait quelque chose d'équivalent, mais en termes plus légers. Et justement, c'est ces questions-là que je me pose pour des petites architectures avec, je sais pas, une quinzaine de serveurs avec quelques services. Est-ce que ces gestionnaires de mots de passe peuvent suffire? Je pense qu'on fera des POC un jour pour savoir. Je sais que Nicolas, toi, tu as peut-être essayé OnePassword justement avec ça.
Ouais. Alors côté OnePassword, il y a deux parties. Il y en a une que j'ai pas testée, mais qui est vraiment dédiée infrastructure. Donc en plus leur pricing est un petit peu bizarre. C'est tu payes à la récupération de mots de passe. Donc si t'en récupères 3 par jour, bah tu vas payer X euros, et si t'en récupères 3000, bah tu vas payer plus cher. Donc c'est un petit peu bizarre, mais bon. Mais ça permet de faire un équivalent de Vault sans avoir la complexité de Vault. Donc a priori c'est juste un conteneur Docker à mettre, et puis après tu vas avoir une API dans laquelle tu vas taper pour aller chercher tes secrets, donc comme Vault, avec l'intérêt de partager tes secrets avec ton OnePassword entreprise dans lequel tu mets tous tes secrets normaux. Alors c'est clairement pas du même niveau de Vault, mais quand tu vas vouloir avoir des outils qui ont besoin de secrets, et ben c'est marrant parce qu'en plus c'était pour déloquer les Vault, ce dont je parlais, les fameux unsealed tokens. Moi je les stockais dans un password store ou dans un one password, donc j'ai fait les deux. Et en fait, j'ai fait un utilitaire Python qui lançait l'utilitaire en ligne de commande Password Store ou OnePassword, qui allait récupérer l'entrée par rapport à mon Vault, et dans lequel j'avais mis toutes les informations qui m'intéressaient au format YAML. Et donc, je récupérais le fichier YAML, je le parsais pour récupérer les logins, les passes, les machins, etc. Et comme j'avais tous les secrets en mémoire, bah, j'allais faire le unseal de mon Vault, et tout ça de manière automatique. Donc le seul truc dont j'avais besoin, c'était un accès à mon OnePassword et l'outil en ligne de commande. Donc ça, je l'ai fait avec OnePassword et aussi avec Password Store, dont Amir est un fervent utilisateur, donc il va pouvoir nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Mais en fait, c'est faut voir ça comme d'un côté, on va avoir de l'Ansible Vault, qui est une excellente solution pour stocker tous vos secrets, pour tout ce qui est gestion de configuration, et pour tous les outils annexes. Plutôt que de mettre des secrets sur des machines, stockez-les dans votre gestionnaire de mots de passe, outillez votre truc pour aller chercher les trucs dans votre gestionnaire de mots de passe, et utilisez des connexions SSH pour aller faire des trucs sur les différentes composantes de vos infrastructures qui ont besoin de ce secret. Vous avez des API, vous avez des trucs, enfin, vous pouvez tout faire à distance. Typiquement, ce que je fais pour le OnePassword, c'est que j'utilise un tunnel SSH qui ouvre un proxy SOX, et je déverrouille mes vaults via l'API à travers le proxy SOX. Donc mes vaults sont entièrement protégés, ils sont pas visibles d'Internet, mais j'arrive à les déverrouiller à partir de mon poste, à partir de ma workstation. Bref, si vous avez des questions là-dessus, j'ai mis une partie du truc en open source, et puis venez me poser des questions sur le forum, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vais laisser Damir présenter Password Store.
Ouais, je vais faire une petite présentation rapide. Password Store, à la base, c'est un outil qui est très orienté keys, donc il fait une chose, il fait vraiment pas grand-chose en soi, mais il le fait bien. Et pour le coup, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'il se repose sur des standards. Donc c'est il repose sur du PGP, du Git pour faire de la synchro et du versioning des secrets dans backend. Donc ça marche plutôt bien. Et c'est tout simplement un gestionnaire de secrets. Alors moi, pour info, j'avais pas utilisé vraiment de gestionnaire de secrets avant, gestionnaire de mots de passe secrets. Celui-ci, c'est celui-ci qui m'a aidé à franchir le pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est ultra extensible. Donc de base, il va juste faire un moteur pour gérer vos secrets. Possiblement, il va vous fournir aussi un pseudo proxy à la commande git pour pousser ça sur un repo à vous en back-end. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir de base, c'est un outil qui est en ligne de commande. Donc très facilement, vous pouvez l'automatiser pour récupérer des secrets ou des choses comme ça. Pour info, typiquement, sur Scalway, il n'y a pas d'outil Ether pour gérer les tokens de session. Bah, moi, je les ai stockés, en fait, dans Password Store. Et dès que je vais dans mon repo Scalway sur mon ordinateur, bah, du coup, en fait, ça a fait j'ai mon direnv, donc, du coup, qui exécute automatiquement mon Password Store pour récupérer mes tokens et les exposer, en fait. Donc, du coup, j'ai même pas à m'en préoccuper. C'est un exemple comme un autre. Bah, du coup, c'est très extensible là-dessus. Et vous avez plein de choses que vous allez pouvoir acheter. Il y a des extensions navigateurs, il y a des clients téléphone sur Android, sur iPhone. Il y a, bien sûr, des clients aussi. Moi, je sais que j'ai un client sur Gnome qui me permet de les récupérer directement dans la barre de recherche Gnome, mes secrets. Donc, voilà, il y a plein de choses. Il y a moyen de faire vraiment ce que vous voulez avec. Moi, j'aime bien ce côté très simple et extensible. J'avais écrit un petit article dessus pour un peu vous montrer à quoi ça ressemble. Avec le workflow, je dis, moi, ma clé PGP, typiquement, elle est pas sur mon PC, elle est sur une clé physique à part. Donc, j'avais expliqué un peu tout ça sur un petit article qu'on vous mettra en commentaire, si ça vous intéresse. Et bah, tout comme Nicolas, si vous avez des questions là-dessus, je suis totalement ouvert à échanger avec vous sur toutes vos questions et voir comment améliorer ça ou trouver d'autres use cases.
Du coup, si j'ai bien compris... Ah, j'avais une question à poser à Damir pour être sûr d'avoir bien compris. Ton password store, il a un dépôt central qui est ton dépôt Git en fait.
Alors par défaut, il n'en a pas. Et c'est toi qui peux dire bah, mes mots de passe, tu les sauvegardes sur Git. Et du coup après, bah, c'est le fonctionnement de Git. En fait, tu peux faire la commande passe, espace Git pull, Git push, etc. Mais tu peux aussi tout simplement aller directement dans l'endroit où il stocke tes mots de passe et faire du Git pull, du Git push et du Git très simple derrière. Moi, j'aime bien cet aspect de ne pas réinventer la roue, mais ça fonctionne plutôt bien.
Ah, d'accord. C'est pas Password Store qui va gérer ton dépôt Git, c'est toi qui va le gérer, en fait.
Alors, non, tu peux le gérer avec Password Store, mais globalement, si tu gères avec Password Store, tu vas faire la commande pass, qui est la commande de Password Store, espace Git, espace tes commandes Git. En fait, c'est juste un alias pour éviter que tu aies allé dans le dossier à chaque fois. Mais oui, ça demande un peu. Alors, ça, c'est en ligne de commande, mais si jamais vous êtes moins à l'aise avec la technique, etc., la plupart des clients, il y a plein de clients graphiques pour Password Store. Là, typiquement, je suis sur mon ordi de jeu qui est sous Windows. J'utilise un client graphique et c'est lui qui va charger de faire un git pull et un git push automatiquement, qui va charger de faire les commits automatiquement. Donc, la plupart des clients intègrent tout ça automatiquement. Mais l'outil de base est ultra basique. Ce qui est intéressant derrière, c'est justement de pouvoir trouver le client qu'on aime bien, etc.
Bah, du coup, ce client-là en ligne de commande, tu peux l'intégrer dans un script au démarrage de ton serveur, par exemple, qui va populariser dans des variables d'environnement tes secrets.
Totalement.
Ou au lancement de ton application.
Totalement. Bah, okay. Ça, tu te retrouves un peu dans le use case que j'ai sur mon PC pro ou quand je vais sur mes projets de POC Scalway, en fait, il va récupérer les secrets qui correspondent et il va les exposer.
Nicolas, je vais compléter. Ouais, je voulais compléter un petit peu. En fait, moi, quand je l'ai découvert, j'étais dans une équipe où, au début, on était deux et on avait un KeePass. KeePass, c'est génial quand on est tout seul. Mais à partir du moment où on est deux, bah, du coup, on l'avait foutu dans un repository Git. Et puis, bah, quand tu le modifies, bah, tu fais git add, git commit, tu mets ce que t'as modifié. Alors, déjà, en termes de sécurité, c'est pas terrible parce que tu sais quelle est l'entrée que t'as modifiée. Donc, si tu veux faire un petit peu de reverse sur la base, j'imagine que ça te donne des indices, mais bon. Et puis, au bout d'un moment, on a été 3, 4, 5, ça devenait ingérable. Donc, on est passé sur Password Store. Et le gros intérêt, c'est que c'est basé sur GPG. Et comme c'est basé sur GPG, bah, chaque personne peut avoir sa clé publique dans le repository Git du Password Store. Et en fait, au moment où tu chiffres un nouveau secret, il va le chiffrer pour que ça soit lisible pour tous les utilisateurs de la clé. Et le truc de génial, c'est que le jour où il y en a un qui part, bah, t'enlèves sa clé, tu rechiffres l'intégralité du Password Store. J'ai pas dit que c'était facile parce que à chaque fois qu'il y en a un qui partait, on mettait une demi-journée pour retrouver comment faire. Mais comme c'est du Git, tu risques de rien casser. Et une fois que tout est rechiffré, tu recommites, tu repousses. Et comme ça, tout le monde peut avoir la nouvelle base qui est rechiffrée correctement pour tout le monde. Et par contre, pour ton utilisation, Christophe, moi je mettrais pas forcément le password store sur la machine. Je le mettrais dans un script qui préparerait tout pour pouvoir aller le pousser sur le serveur. Ou alors avoir un password store à part pour spécifiquement ce serveur-là. Parce que ça aussi, c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais c'est que password store permet d'avoir plusieurs repositories. Moi, j'en avais un pour ma boîte et j'en avais un perso. Les deux coexistaient. Alors, c'était pas simple parce qu'il fallait aller à la main pour aller faire certaines manipulations, pardon. Par contre, l'édition des passwords, la création de nouveaux passwords et ainsi de suite fonctionnait très très bien. Et je l'ai fait à l'époque où il n'y avait pas de client front-end à part un vieux truc en Qt tout moche.
Ouais, alors du coup, ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est que Password Store, c'est bien, mais en fait, t'as qu'un seul niveau d'accès. Soit t'as accès, soit t'as pas accès. T'as pas de gestion de groupe, ce genre de choses.
Oui, non,
C'est ça.
ça c'est le problème. Donc c'est pour ça que, comme disait Nicolas, si tu veux faire ça, bah, il faut que tu fasses des projets à part potentiellement pour délimiter des scopes et tu peux délimiter avec les clés. Mais ça devient assez vite difficile à maintenir en fait. Moi c'est pour ça. Password store, j'utilise vraiment que pour mon guide, mes mots de passe perso en fait. Mais si jamais demain je devais l'étendre à une équipe, j'avoue que j'aurais tendance à utiliser peut-être d'autres outils.
Bitwarden a l'air très très bien pour faire ça.
Je pense qu'on essayera ça puisqu'on a déjà un Bitwarden, on fera des POC avec. Ah ben on
Est-ce que
arrive
je dis
juste. Ouais.
juste pour terminer sur Bitwarden, on est d'accord qu'il y a bien un client en ligne de commande.
Oui, tout à
Tu peux
fait.
bien faire des coffres-forts séparés.
Oui, tu peux faire
Tu
des
peux
groupes
créer
et des accès.
et donc tu peux créer un compte spécifique pour ton serveur et mettre tes secrets dans un coffre à part et puis voilà.
Exactement. Ton serveur, ton application, enfin, à partir du moment où, enfin, tu as une infinité de partages, en fait.
Oui.
Donc, t'as ton secret, tu peux le partager à ton infra A, à ton infra B, j'imagine. Ça fait partie des choses que je pense qu'on va tester.
Moi, je ferai comme ça.
Notez qu'il y a une alternative qui s'appelle VaultWarden.
Oui, tout à fait. Il y a une alternative codée en Rust. Je vais le dire pour que ce soit pas René qui le dise, qui s'appelle VaultWarden. Tout à fait.
Ah, je crois que juste un des avantages, c'est que sur le site de Bitwarden, fallait à un moment, fallait au début, il fallait rentrer les credentials, où je me rappelle plus trop. Il y avait une certaine limitation, et du coup, VaultWarden, voilà, il y a pas ces limites, enfin, limitations entre guillemets.
Alors, je ne sais pas si c'est le partage qui est désactivé dans Bitwarden version libre ou si c'est le fait de pouvoir avoir le client, je ne sais pas. Mais en tout cas, VaultWarden s'est monté parce que ou non, c'est ça. Ou si c'est le fait d'avoir une authentification unique et VaultWarden s'est a recodé en fait le serveur, excusez-moi, le serveur en Rust pour justement pallier à ces limitations-là. Je sais pas quelles limitations sont passées par là, mais en tout cas, VaultWarden permet de tout faire, c'est 100% compatible avec tous les clients en fait.
Moi j'avais essayé, ça marche, enfin il y a déjà un bon moment, ça marchait très très bien déjà à l'époque, donc j'imagine que ça s'est plutôt amélioré. Donc à tester.
Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. C'est le moment de rappeler à notre cher auditeur qu'il peut s'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube s'il veut voir nos petites boubouilles. Le podcast, si notre cher auditeur, tu veux le partager, je t'en prie, fais-le. Ça nous aidera à le faire découvrir parce que contrairement à YouTube où il y a la partie découverte sur le podcast, c'est un peu compliqué. Et, enfin, ça marche surtout par bouche à oreille. Et ben, je vous remercie tous les trois encore de cet épisode fort intéressant et encore une fois, assez long et assez dense. Je crois qu'on a pas saoulé notre auditeur, mais en tout cas qu'on lui a appris beaucoup de choses. Et je vais donner le premier mot de la fin à Damir.
Bah du coup, je conclurai par danser comme si personne ne vous regardait et chiffrer vos données, vos secrets comme si tout le monde les regardait.
Et René, quel est ton mot de la fin?
Bah, je vais rester classique. J'espère que l'épisode vous a plu et que bah, si il y a eu plusieurs propositions d'échanger sur le forum, donc voilà, je pense que c'est la bonne place pour avoir des infos de Damir et Nico.
Et Nicolas, tu as le mot de la fin de la fin.
Bah, comme le disait Damir, chiffré comme si tout le monde regardait et que vous écriviez tous vos secrets sur des cartes postales. Et puis chiffrer vos disques parce que votre ordinateur aujourd'hui sera l'ordinateur d'un autre plus tard, et chiffrer vos données dans vos bases parce que de toute façon elles vont leaker, et donc vous allez vous faire ransomwareiser, donc chiffrer, chiffrer, chiffrer. Et vivez nu.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.